Eh bien, bonjour chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission tout à fait particulière, hors norme, sans véritablement de nom d'émission, mais à situation exceptionnelle, émission exceptionnelle. Donc je reçois aujourd'hui Catherine Parisot. Bonjour Catherine.
Bonjour à Valérie et merci pour cette invitation.
Oui, c'est tout à fait impromptu. Merci à vous d'avoir accepté. Donc, vous êtes bien connue de nos auditeurs réguliers parce que vous avez été une animatrice très écoutée de notre radio. Vous êtes par ailleurs agrégée d'anglais, spécialiste du monde britannique et surtout, ce que j'ai appris ce matin, fille d'un interprète. Recrutée par le corps expéditionnaire britannique en novembre 1939, donc qui a donc servi dans cette armée dont la reine Elisabeth II était chef.
Absolument.
Pendant donc une partie de la guerre, évacuée avec les troupes à Dunkerque, les amateurs d'histoire et ceux qui ont vécu cette période se souviendront. Vous avez donc été animatrice et vous êtes en studio aujourd'hui parce que nous allons tenter de parler de Elisabeth II, cette reine si exceptionnelle. En France, nous enorgueillissons d'avoir eu Louis XIV qui a régné plus longtemps qu'elle, mais tout de même, dans le monde moderne, c'est un exploit, si je puis dire. Donc, on va parler dans cette émission de tout un tas de chiffres. On commence évidemment en disant qu'il y a un deuil de 10 jours dans tout le royaume, que les hommages, bien sûr, se multiplient partout, que l'on voit beaucoup de choses, beaucoup de photographies, des anciennes, des nouvelles. Et donc, je pense que, si vous voulez bien, nous allons revenir, Catherine Parisot, sur la journée d'hier, puisque la reine est morte hier à 18h30.
Enfin, disons que c'est l'annonce officielle de sa mort. Ah. Parce qu'il y a déjà tout le côté protocolaire était déjà très largement lancé.
Oui. Hein. C'est ce que j'ai lu aussi ce matin. En fait, elle a dû, je pense, c'est un petit peu comme Lénine, comme Mao, elle est morte et puis on a pris son temps. Et on a annoncé son décès.
C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas seulement prendre son temps, c'est observer la hiérarchie qui toute la chaîne de pouvoir dans cette monarchie britannique qui est une espèce d'hybride entre une monarchie et une démocratie moderne.
Oui.
Donc bien entendu, il faut absolument prévenir donc non seulement tous les membres du cabinet privé de la reine, mais aussi le premier ministre, etc., oui. etc., dans oui. un ordre bien précis
défini.
Que je ne vais pas détailler. Mm-hmm. Et simplement, ce qu'on sait, c'est que à 16h30, Liz Truss a eu un appel. Et elle était à ce moment-là en session au Parlement et où elle était en train, ils étaient en train de discuter des réformes budgétaires à apporter pour résoudre la crise qui règne actuellement en Angleterre. Et elle s'est interrompue brutalement et le speaker de la Chambre des communes a dit simplement que la session était ajournée. Enfin, que disons oui. qu'il continuait les débats, mm-mm. mais que en fait, à ce moment-là, Liz Truss s'est levée et a quitté la Chambre des communes. Donc tout le monde a compris, mais personne n'a rien dit, selon la bonne
formidable.
Tradition anglaise.
Oui, c'est formidable.
Et cette image de Liz Truss en train de quitter donc la House of Commons et tous les MPs là ne disant rien alors qu'ils ont tout le monde a compris. Ça, c'est so British.
Exactement. Exactement. Et alors,
l'annonce a été faite à 18h30.
Oui.
Et sachant que, en fait, et c'est pour ça que les gens se sont rassemblés devant Buckingham Palace, parce qu'on sait, dans les traditions anglaises, qu'on annonce la mort du souverain par une pancarte apposée devant, sur un chevalet derrière les grilles de Buckingham Palace pour annoncer la mort du souverain. Et cette annonce a été faite à 18h30.
D'accord.
Et alors, il y a eu un gros débat sur, attendez, quand est-ce que, à partir de quel moment on commence le décompte du deuil. Et finalement, il a été décidé, mais ça a été tout un truc, que ce que D0, c'était aujourd'hui, vendredi.
Ah! D'accord.
Et donc, alors il y a des suppositions sur la date de l'enterrement. On pense que ce sera le lundi 19 septembre, mais c'est pas encore confirmé. Mais c'est ce qu'on fait tous les, la conclusion à laquelle tous les experts sont arrivés après avoir repris tout le déroulé
des événements
à prévoir jusque au lundi 19 septembre.
Ah oui, c'est parce que en plus de ça, il va y avoir c'est pas simplement on la met dans un cercueil on va aller voir, j'imagine, la dépouille cercueil. Enfin, qu'est-ce qui est prévu?
Là, la question est très intéressante parce que il est prévu que le cercueil de la reine fasse une étape à la cathédrale Saint Giles de Édimbourg.
Ah bon? Et pourquoi?
Alors, elle est morte en Écosse.
Oui.
Son lien avec l'Écosse est extraordinairement fort. Pour deux raisons, je dirais en gros schématiquement,
oui.
Parce que sa mère était écossaise, hein, c'était les comtes de Glamis, hein,
d'accord.
D'une part, donc raison privée, et puis surtout parce que depuis la reine Victoria, la résidence d'été des souverains anglais, enfin une des résidences en tout cas, mais la principale, c'était Balmoral Castle. Et il se trouve qu'elle est morte à Balmoral Castle.
Ah.
Et
donc il faut une forme de respect et dommage.
Voilà, et dommage. Et puis alors une autre raison alors historique, mm-hmm. c'est que elle a en mémoire le fait qu'elle appartient au clan des Stuart,
oui.
par le roi Jacques Ier, qui était le roi Jacques VI d'Écosse après la mort d'Élisabeth Ière.
D'accord.
Au début du XVIe siècle. Mm-hmm. Donc c'est une histoire qui remonte loin.
Effectivement.
Et alors on aura remarqué, là, vous me posiez tout à l'heure la question sur ce qui s'était passé dans les jours précédents le décès. Quand la reine Elisabeth a reçu Liz Truss, la nouvelle première ministre, il y a une très belle photo où on la montre à Balmoral, recevant donc Liz Truss, vêtue d'un kilt.
Ah.
Pas d'une jupe plissée, comme on dit certains commentateurs français, je ne nommerai pas. Et cette jupe plissée est un tartan Stuart.
D'accord. Ah oui, donc
ah, c'est pas Royal Stuart. Bon, je vais pas rentrer dans les détails tactiques,
oui,
mais c'est un tartan Stuart.
Ah.
Donc qui marque son appartenance d'origine au clan Stuart.
Au clan Stuart.
Au départ, d'accord. Avant même que ces Stuart deviennent rois d'Écosse. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de filiation absolument extraordinaire.
Oui, donc on peut parfaitement comprendre qu'il y ait un stop, si je puis me permettre, à Édimbourg.
Voilà, sachant que les discussions sont encore en cours. Là, j'ai pas encore trouvé les réponses sur est-ce que le cercueil va voyager en train, selon les vieilles traditions qui ont été observées, par exemple pour Winston Churchill,
oui.
ou est-ce qu'elle va voyager en avion?
Diable, ça serait pas très écologique l'avion là, parce qu'il y a quelques engagements maintenant.
Voilà. Alors là, la question est ouverte. Je n'ai pas la réponse. J'ai cherché avant l'émission sur le Guardian, qui est une source absolument extraordinaire,
officielle presque.
Tout à fait vrai. Ah oui, très 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 fiable. Mm-hmm. Je n'ai pas trouvé la réponse.
Bon, donc la question demeure ouverte. C'est chouette. On pourra en discuter.
Absolument.
Alors moi, je me suis demandé si les Britanniques, dans leur ensemble, avaient très probablement oui, mais la sensation qu'ils étaient en fin de règne, de toute façon, elle avait 96 ans, même si on avait tous l'impression qu'elle était immortelle, la vie étant ce qu'elle est, ça devait forcément arriver un jour ou l'autre. Mais est-ce que ça donnait une ambiance? Est-ce que c'était un sujet de discussion? Est-ce que au pub, on dit alors la reine, ou bien non, pas du tout, c'est nous Français qui faisons une sorte de fantasme à distance sur l'intérêt des Britanniques pour leur reine?
Alors c'est...
En fin de vie, j'entends.
Alors, fin de vie, oui. Alors c'est vrai que... Je pense qu'on en parlait dans les chaumières, ça c'est sûr, mais c'était pas vraiment un sujet de...
C'est pas un sujet.
C'était pas vraiment un sujet de discussion, c'est-à-dire que pour actuellement 83% des Britanniques, ils sont en faveur de la monarchie.
Oui.
Simplement, ça fait partie de leur vie. Et puis là, une fois que la reine est morte, le roi
remplace quoi.
Remplace,
on continue.
Donc je pense que cet intérêt pour la reine s'est beaucoup plus manifesté à l'occasion du jubilé de platine qu'on a vu
il y a quelques semaines,
2022.
Mois.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Et puis, bien sûr, depuis hier, avec les gens qui spontanément se rendent sur les différents sites symboliques de la monarchie britannique à travers tout le royaume, y compris l'Irlande du Nord.
Oui.
Hein, pour déposer des fleurs sur des lieux absolument dédiés à ces dépôts, parce que les Anglais sont toujours très pragmatiques et organisés.
Et organisés, c'est ça.
Et puis les gens font pas ça dans le bazar un peu à la française, hein,
bon. Tout est codifié, donc.
Oui. Cette ferveur populaire est absolument, patente.
Ah oui.
Et, elle a toujours existé, sauf pendant la période d'éclipse. Des années 90 et au moment de la séparation de Charles et Diana et puis surtout de la mort de Diana où ils ont temporairement perdu confiance dans leur reine. Mm-hmm, voilà. Mm-hmm. Et donc en fait cette ferveur elle est plus d'ordre affectif. Et puis aussi à la fois ce côté affectif, c'était un peu notre grand-mère à tous.
Oui.
Ou notre arrière-grand-mère à tous.
Oui. Oui. Hein,
c'est ce qu'ils pensent.
Et pourtant, ça n'était pas une arrière-grand-mère, d'ailleurs. Je me suis fait la réflexion
ce matin.
Elle était simple grand-mère à 96 ans.
Ce qui est extraordinaire.
Ce qui n'est pas banal, oui. Tout à fait. Mais on a une explication. Non, en fait, c'est bizarre parce que ses enfants son fils s'est marié, il a eu des enfants, tout ça paraissait assez,
oui. Alors c'est vrai qu'il s'est marié tard.
Il s'est marié un peu tard.
Oui. Et puis c'est vrai que les petits-enfants sont juste en âge d'avoir des enfants.
Ouais.
Mais attendez, je réfléchis. Elisabeth, Charles, William... il y a 4 générations. Elle est arrière-grand-mère. Si.
Mais oui, puisqu'ils ont des petits-enfants.
Bien sûr.
Harry, bien sûr.
Et d'ailleurs, ce qu'il prouve bien, c'est cette photo iconique qui a été faite il y a quelques mois où on voit Elisabeth, William, Elisabeth, Charles, William et George, l'aîné, les arrière-petits-enfants. Un petit peu sur le modèle de la photo similaire qui avait été prise en 1897 au moment du jubilé de la reine Victoria avec de la même façon son fils qui allait régner le futur Édouard VI.
Oui.
Ensuite, le futur George V et puis le quatrième en succession.
Oui. D'ailleurs, l'histoire a démenti cette première photo.
Oui.
Puisque elle n'était pas appelée à régner, il y aurait dû y avoir une autre lignée.
Bien sûr, mais ça, il ne lisait pas dans le marc de café.
Non. Donc c'est vrai, une erreur de ma part, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de petits-enfants, je ne suis pas suffisamment au courant.
Non, mais moi j'ai eu un moment aussi d'hésitation.
D'hésitation.
Donc, bon...
Donc, 70 ans de règne, c'est pas rien.
Oui.
70 ans de règne, c'est évidemment il y a plein de chiffres partout sur tout ce qu'elle a pu tous les chefs d'État qu'elle a pu rencontrer. Je crois qu'on est à 114 ou quelque chose comme ça. Toujours est-il que elle a reçu 112. J'ai noté 112 visites d'État de l'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié en 54, l'empereur du Japon Hirohito,
oui,
qui ne sortait jamais de chez lui.
Jamais.
Je pense qu'elle est l'une des rares personnes à l'avoir rencontrée de visu.
Alors c'est vrai que Hirohito, il avait son amour des lépidoptères, donc il avait été très attiré par l'idée de visiter le Science Museum de Londres, qui est un lieu, un haut lieu
des lépidoptères.
Des lépidoptères.
D'accord. J'ignorais cet aspect de la visite. Alors, j'ai noté, évidemment, le président polonais Lech Walesa en 91. Oui. Barack Obama, bien sûr. Alors, 10 présidents français. 10, c'est pas mal quand oui. même. Et tout ça,
surtout qu'ils se succèdent moins souvent que les premiers ministres conservateurs anglais par les temps qui courent.
Alors, oui. Alors effectivement, par les temps qui courent, c'est vrai. Elle a quand même eu 15 premiers ministres, oui. de Winston Churchill entre 52 et 55 jusqu'à donc Liz Truss, oui. ces alors, derniers jours.
Et alors, je voudrais faire une remarque quand même que j'ai entendue sur la BBC là, la nuit dernière,
oui.
Faite par un reporter chevronné qui a dit, vous avez remarqué que Winston Churchill, son premier ministre, est né en 1874.
Oui.
Et que Liz Truss, qu'elle a reçue deux jours avant sa mort, est née en 1975.
Ah.
C'est absolument vertigineux, ce truc.
C'est vrai. Oui, c'est vrai.
Et c'est une autre façon de sentir justement toute cette épaisseur du temps.
C'est vrai. C'est ce que je me suis permis de dire tout à l'heure parce que je donnais le petit flash d'information. La vie d'Elisabeth II nous permet de faire un retour historique sur une grosse partie du XXe siècle.
Absolument.
Et le XXIe siècle.
Oui.
Même pour des gens qui ont entre 40 et 70 ans, on va dire.
Mais oui.
C'est un pan d'histoire contemporaine dont on ne parvient même pas à connaître tous les rouages.
Oui.
Et elle-même, reine d'Angleterre, elle a été en contact avec la plupart des chefs d'État, un grand nombre de premiers ministres, si on compte la couronne britannique et enfin le Royaume-Uni, oui. et le Commonwealth, l'Afrique, l'Asie, enfin c'est incroyable. On va avoir des tas de livres sur des tas de chiffres comme ça, assez exceptionnels. Alors moi, ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est que tout ça, tout en ne faisant pas de politique.
Absolument.
Alors là, elle devait bien avoir une opinion quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine Parizeau ?
Alors, très probablement, mais elle se conformait à ces injonctions qui sont alors, pas inscrites dans une constitution, puisqu'il y a quand même une partie ce qu'on appelle la constitution anglaise, qui est en fait faite non seulement de textes officiels comme l'habeas corpus, etc., mais aussi oui. d'écrits, de commentaires, de traditions, etc., ce qui colle bien d'ailleurs avec les origines celtiques du royaume.
Oui, hein,
ça,
oui.
ça remonte à très, 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 très loin. Et en fait, au 19e siècle, à l'époque où Victoria avait tendance à négliger un petit peu ses obligations personnelles, ses obligations en tant que souveraine, parce qu'elle avait perdu son cher Albert et qu'elle s'était enfermée dans un deuil, et donc un certain nombre de membres de l'élite britannique s'inquiétaient de cet état de fait. Et donc, en 1867, le rédacteur en chef de The Economist, qui existait déjà hein, à l'époque, très grand journal, ça, très grand magazine, a écrit un livre qui s'appelle The English Constitution. D'ailleurs, c'est un titre pas neutre. Et c'est un gros volume. C'est une Bible qui est rééditée très régulièrement depuis 1867 et qui est étudiée à fond par toute l'élite britannique. Des politiques.
D'accord.
Et dans la constitution, alors je vais pas rentrer là-dedans, parce que là il y en aurait des volumes.
Oui, ce que je comprends.
Il y a quand même, pour répondre à votre question, il y a cette injonction, la reine doit se contenter d'avertir, mais n'a pas absolument pas le droit de commenter. Par donc, mais comme elle a ce droit quand même d'avertir, de prévenir, c'est à mon avis le mot clé
oui.
qui renvoie à toute l'ambiguïté de sa position. Dans ce cadre-là, elle reçoit tous les mardis soirs le Premier ministre, d'une part. Deuxièmement, tous les matins, elle reçoit une de ces fameuses boîtes rouges. voilà. Red Boxes, qui contiennent tous les documents afférents à la vie politique et diplomatique du pays. Et alors, ce qu'on aimerait bien être, c'est des petites souris pour connaître le contenu de ces entretiens avec ces premiers ministres qui doivent rester, je crois, alors là, il faudra vérifier, sous le secret, secret défense, confidentiel, jusqu'à 50 ans après sa mort.
D'accord.
Enfin, je sais que c'est une date qui sera après la mienne, hein, donc ma curiosité ne sera pas satisfaite.
Il y a quand même des choses qui transpirent, parce que par exemple, on savait qu'elle n'était pas favorable à la politique de Margaret Thatcher. L'affaire Bobby Sand, etc., elle avait été quand même, elle avait dû manifester.
Alors là où ça a été le plus clair, ça a été sur concernant l'apartheid.
Oui.
Où elle a pas dit grand chose, mais elle a fait comprendre. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que quand Mandela a été libéré, il a été reçu avant même de devenir président de l'Afrique du Sud. Hein, donc entre le moment de sa libération et le moment de son intronisation comme président, elle l'a reçu. Il a eu droit à une visite d'État, state visit. Et ça, quand on connaît le protocole anglais, on sait ce que ça veut dire.
C'était véritablement un hommage, enfin,
et puis une façon de dire j'étais pas d'accord du tout avec l'apartheid. Et il a défilé sur le Mall dans le carrosse royal à côté de la reine.
Waouh.
Et il y en a pas beaucoup
qui ont eu ce privilège.
On peut par exemple offrir en contraste, puisque justement cette histoire de est-ce que je n'ai pas le droit de donner mon opinion, quand elle a reçu Donald Trump et son épouse, elle a bien été obligée pour une state visit.
Bien sûr.
Mais elle arborait une broche qui avait été offerte par les Obama.
Formidable. Formidable, finesse.
C'est ça, tout en finesse. On en est sûr. Ouais. Alors qu'il y a une grosse controverse sur l'histoire de du chapeau bleu aux étoiles, enfin avec la décoration dorée qu'elle portait lors d'un discours du trône, dont certains commentateurs ont dit bah, c'est parce qu'elle elle manifeste contre le Brexit. Et alors là, on ne sait pas. Ah. Et par contre, l'histoire de la broche des Obama, c'est un fait. Il y a des photos avéré. Partout.
D'accord, d'accord. C'est effectivement une façon très, très subtile d'exprimer son opinion. Oui. C'est assez intéressant, assez intéressant. Ouais. Alors, justement, vous parlez de broches, etc., de chapeaux bleus. Moi, j'ai une question un peu people.
Oui.
Mais, je me demande si, justement, dans l'ordre du subtil, on n'est pas, justement, au cœur du sujet. Elle est bien connue pour s'habiller en jaune poussant, en bleu pétard, en vert fluo, enfin des couleurs totalement invraisemblables, avec des sacs à main qui vont bien et des chapeaux qui vont aussi. Alors, est-ce qu'elle a réellement un goût épouvantable, qu'elle déteste les créateurs britanniques qui sont pourtant fort bons et dont nous faisons nous sommes très friands chez nos créateurs de mode? Ou alors, il serait pas un peu plus subtil que ça?
Ah ben, déjà, il y a un premier point. Ça, elle le disait volontiers.
Oui.
Et puis pas les laisser filtrer. Mon rôle, c'est d'être vue. Donc, couleur vive.
D'accord, toujours.
Toujours. Par définition, le noir n'étant réservé qu'à des occasions absolument exceptionnelles. Et alors, ce qui est un détail intéressant, c'est que cette femme qui était très prévoyante, même à un âge très jeune, quand elle est partie au Kenya pour ce fameux voyage en 1952, savait que son père était en mauvaise santé, mais il n'avait que 56 ans, elle avait déjà emporté les tenues de deuil. Et donc, quand elle est redescendue de l'avion en tant que reine,
Elle était en noir.
Et puis, on l'a vue en noir, bien sûr, au moment du décès de
son mari.
De Lady Diana, quoi, bien sûr.
Et Lady Diana, exact. Ouais. 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 Quand même.
Mais disons, alors là, on sait qu'elle n'aime pas le noir. On le sait.
Oui.
Et par contre, elle a une manière de choisir les couleurs en fonction des inaugurations de chrysanthèmes, comme dirait Général de Gaulle. et en particulier, par exemple, à l'occasion de l'inauguration de la Elizabeth Line.
Oui.
Qui est une ligne de métro.
C'est
nouvelle.
Sa ligne de métro, voilà. Voilà. Oui.
Et elle est descendue une première fois dans le chantier il y a quelques années, habillée en violet, donc des couleurs de la future ligne, exactement le même violet, hein, au quart de poil près.
Oh,
et,
formidable.
Et elle est revenue alors en surface. Participer à l'inauguration, l'ouverture de la première station par laquelle passait la ligne, donc dans Londres, toujours en violet.
Incroyable.
Et ça, c'est,
eh oui,
c'est très fort. Quoi.
C'est très fort et c'est à la fois fort et subtil. C'est ça qui est assez merveilleux.
Ça, voilà.
Et c'était une femme comme ça.
Et puis alors, elle avait un autre problème, c'est qu'elle était petite quand même.
Il paraît 1m63.
Oui, ce qui est petit pour une Anglaise.
Oui.
Déjà, nous, en France, c'est un peu limite, mais alors...
En Angleterre,
oui.
Les personnes sont plus grandes, c'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, on l'a remarqué mieux en jaune poussin.
Oui.
Alors, vous venez de parler de ligne de métro qui s'appelle Elisabeth. Bon, je sais que son effigie est sur les boîtes à lettres, les fameuses boîtes à lettres. Je sais aussi qu'il y a évidemment les timbres-poste, les billets de banque, etc. Alors, moi, je me suis demandé si, avec l'avènement du roi, on allait buriner à la façon de l'Égypte ancienne, on allait buriner la face de la reine. Ou est-ce que ce serait quand même un peu un lèse-majesté ?
Très bonne question, surtout qu'en plus, bien sûr, on n'est pas du tout dans la tradition pharaonique. Disons qu'on a une autre conception de la continuité, parce que les Égyptiens, ils avaient une conception de la continuité, mais c'était pas la même.
Exactement.
Et là, j'ai lu dans le Guardian là tout à l'heure que il avait été spécifié que d'une part les timbres actuellement en cours resteraient valables. Alors ça, c'est le pragmatisme anglais.
Oui, ça c'est une décision économique,
mais que en plus ils allaient continuer à éditer des timbres à son effigie. Alors pour certaines occasions, etc. Parce que évidemment, faut la continuité, ça veut dire aussi laisser la place au nouveau monarque.
C'est vrai.
Donc il y a des arbitrages en cours, très très sérieux, au ministère des Transports, les communications, pour voir comment on va faire la transition, par exemple, au niveau des timbres.
D'accord.
Ça discute.
C'est pas mal quand même de discuter de ces choses-là. Mais
et bon. Puis leurs billets de banque, pareil.
Oui, ben oui.
Même chose pour les billets de banque, bien sûr.
Ben oui, bien sûr. C'est extrêmement emblématique. De toute façon, cette femme-là, c'était un symbole. Alors, je voudrais qu'on termine. Nous allons faire une pause, en fait, dans cette émission. Je vais, Catherine Parizeau, me permettre de donner quelques explications. D'ici 3 minutes, nous allons faire une pause dans notre émission. Nous reprendrons un quart d'heure plus tard parce que nous allons écouter le quart d'heure de Michel Gaillard, son clin d'œil avec le maire d'Argenteuil, où elle est dans un sujet complètement différent, mais nous ne ferons pas de lèse-mère de la même façon que nous ne pourrions faire de lèse-majesté. Mais le maire d'Argenteuil a eu la gentillesse de répondre aux questions de Michel Gaillard sur l'ouverture au public de la maison de Claude Monet. Donc nous allons leur laisser la parole un quart d'heure et nous allons revenir pour parler de cette transition. Mais une infime question juste avant de partir. Elle était le symbole de beaucoup de choses, notamment du flegme britannique. Est-ce que c'est parce que elle était aussi un peu indifférente ou bien est-ce que c'était pur personnage de sa part? Je pense évidemment à l'affaire de Lady Di au moment de sa mort où on aurait le public et même les gens à l'extérieur comme les Français auraient aimé un petit peu plus de compassion immédiate.
Alors je répondrai par une notation de personnalité. Quand elle était petite avec sa sœur à une époque
Margaret,
où il n'était pas du tout envisagé qu'elle deviendrait reine un jour, puisqu'elle était troisième dans l'ordre de succession. Donc, quand elle était gamine, tous les soirs, à l'âge de 7, 8, 9, 10 ans, elle rangeait toutes ses affaires dans sa chambre. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Mais ça ne veut pas dire qu'elle était froide.
Oui.
Ça veut dire simplement que c'était quelqu'un déjà de très structuré.
Très organisé.
Et puis qui cloisonnait beaucoup. Qui cloisonnait beaucoup.
Donc, elle l'a prouvé tout au long de son règne et de son existence.
Absolument.
Nous nous quittons donc momentanément sur ces mesures du fameux God Save the Queen.
Absolument.
Ah.